Nicolas, je peux te demander s'il te plaît de préparer mon ordi parce que en fait, ça va m'aider. En fait, il faut juste l'ouvrir et puis mettre le câble, tout est prêt. Et puis que la personne au beamer puisse juste mettre comme il faut. Parce que jusqu'à ce que je vienne à toi, pardon, ça risque d'être un peu... Je pense que ça va être juste un peu compliqué. Aïe, 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 aïe. Voilà. Aïe, aïe. Oups. Pardon. Excuse Jean-Christophe. Pardon. Oups. Excusez-moi. Oh, en plus de ça, ça monte. Et puis, ça descend. Voilà. J'y suis. Bonjour. Le Seigneur fraye un chemin, mais il y a un autre chemin où c'est des fois un petit peu plus compliqué. On va parler de ça ce matin. On entend toujours ces derniers dimanches que Jésus revient. Le retour de Jésus. Jésus revient, il revient bientôt, ça c'est un fait. C'est vraiment le thème de ces derniers dimanches. Et même si on n'est pas trop au clair sur ce que dit la Bible concernant le retour du Seigneur, on ne sait pas trop... Il y a l'enlèvement, on ne sait pas quand c'est que ça va avoir lieu, il y a le retour en gloire, il y a le millénium, il y a toutes ces choses-là. Alors on sait que ça vient, mais c'est vrai qu'il y a encore une part de mystère. Mais même si on ne sait pas tout, il suffit de regarder l'actualité pour se rendre compte que les contractions se rapprochent. Il suffit de voir les progrès technologiques, il suffit de voir aussi la dégénérescence des mœurs, etc., on peut vraiment dire, mais Jésus est à la porte. C'est vraiment pour bientôt. Alors Jésus revient, pour certains, c'est vraiment une joie, c'est une espérance. Et pour d'autres, ça fait peur. Comment est-ce que Jésus va me trouver? Est-ce que je suis prête à rencontrer le Seigneur? Est-ce que je vais être enlevée avec tout le monde? Est-ce que je vais rester ici? C'est des questions qu'on peut se poser. Alors justement, le Seigneur, il fraye un chemin devant nos pas, il a des projets pour notre vie, pour notre avenir. Mais en nous-mêmes, il y a un chemin qu'on doit préparer au Seigneur. Et ce chemin-là, souvent, il est un peu plus chaotique. C'est carrément le parcours du combattant. Ouais. Alors, je vais vous lire dans Luc, au chapitre 3. Je vais vous lire les 6 premiers versets. La 15e année du gouvernement de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, Philippe, son frère, tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconitide, Lysidias, tétrarque de l'Abilène et du temps des grands prêtres Anne et Caïphe, la parole de Dieu parvint à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il se rendit dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de changement radical pour le pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins raboteux seront nivelés et tous verront le salut de Dieu. » C'est Jean-Baptiste qui annonce l'arrivée de Jésus, le début du ministère terrestre de Jésus. Mais c'est encore actuel. Parce que Jésus revient, et qu'on doit préparer en nous-mêmes son chemin. Le chemin qui lui permet d'accéder à nos cœurs, le chemin qui lui permet de transformer nos vies, le chemin qui lui permet que nous ayons une relation de communion, d'intimité avec lui, ce chemin qui fait que on ne va pas craindre son retour, mais on va l'espérer. On est dans le « déjà et pas encore ». C'est quelque chose qu'on a dans toute la Bible, le « déjà et le pas encore ». Jésus est déjà venu, mais il revient. J'ai déjà été sauvé, mais j'attends mon salut éternel. Il y a plein de choses comme ça dans la parole. Alors, à l'époque de Jean-Baptiste, quand il prêche ce message et qu'il dit « préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, etc. », il faut bien penser que à l'époque, les routes, c'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de bitume. Il y avait un bon réseau routier qui était fait par les Romains, mais c'était régulièrement endommagé. Et quand il y a un roi ou quelqu'un qui était élevé en autorité sur le peuple qui allait faire un déplacement, il envoyait des messagers pour annoncer sa venue, pour qu'on puisse préparer son chemin. Il fallait aller remettre les pavés qui avaient été ôtés, il fallait combler les nids de poules, il fallait bien réparer ce chemin pour que les chevaux, les chars, la suite royale, l'escorte, etc. puissent passer sans heurts. Et c'est de la même manière que nous devons préparer le chemin dans notre cœur qui va permettre à Jésus de venir. Donc il y a vraiment les deux sens. Le sens que du chemin que Jésus prépare de moi au projet qu'il a pour moi, et ce chemin de Jésus qui veut venir complètement être formé en moi. Et c'est de ce chemin-là que je vais parler ce matin. Je vais prendre les passages de Luc 3 et 4b. Il se rendit dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de changement radical, c'est-à-dire un baptême de repentance, pour le pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. C'est celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur !» Et on trouve la même chose, ou presque, dans Ésaïe 40. Je vais vous lire les versets 1 à 3. Parce qu'en fait, ce que Jean-Baptiste est en train de dire, c'est ce qui a déjà été prophétisé à son sujet par le prophète Ésaïe. Ésaïe 40, les versets 1 à 3. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que son combat est terminé, qu'elle s'est acquittée de sa faute, qu'elle a déjà reçu du Seigneur le double de ce qu'elle méritait pour tous ses péchés. » Quelqu'un crie dans le désert, « Frayez le chemin du Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu dans la plaine aride. » Ce mot « préparer », si je regarde ce qu'il veut dire pour le prophète Ésaïe, c'est un mot qui veut dire « rendre clair, dégager, rejeter, éliminer les obstacles ». Et la version que j'ai ici, il y a marqué, c'est la Nouvelle Bible Second, frayer un chemin. Frayer. Frayer, c'est un peu ce que j'ai dû faire pour pouvoir arriver jusqu'ici. On dégage le terrain, on enlève les mauvaises herbes, on enlève toute la végétation qui a envahi le chemin. On se fraye un passage. On enlève tous les obstacles. Le contexte d'Ésaïe, quand il écrit ça, c'est celui d'Israël qui est en exil à Babylone et il lui annonce sa restauration. Il lui annonce son retour d'exil. Et si Israël est en exil, c'est à cause de sa rébellion, c'est à cause de ses péchés. Alors, Dieu envoie un prophète pour annoncer le rétablissement. Consolez, consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem. Son combat est terminé. Elle s'est acquittée de sa faute. Elle a déjà reçu du Seigneur. C'est de la consolation, c'est de la restauration que le Seigneur annonce. Mais on est surtout dans le domaine de la repentance. Et c'est cela dont Jean-Baptiste parle quand il dit « changez d'attitude » ou, selon les versions, « repentez-vous ». Donc Jean-Baptiste, il annonce la venue de Jésus pour le pardon des péchés, pour la repentance. Et ça, on l'a au verset plus loin, toujours dans Luc 3, mais à partir du verset 7. Il disait donc aux foules qui venaient pour recevoir de lui le baptême, « Vipère, qui vous a montré comment fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits dignes du changement radical et ne commencez pas à vous dire « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Maintenant déjà, la hache est prête à attaquer les arbres à la racine. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de beaux fruits, est coupé et jeté au feu. C'est dur. Jean, quand il prêche son message, c'est « Repentez-vous, convertissez-vous, sinon ça va mal finir. » Préparer le chemin du Seigneur, ça veut dire « convertissez-vous », ça veut dire « repentez-vous ». Et ça, la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on a fait. C'était la porte d'entrée pour Jésus, c'était le début du chemin. Mais en fait, pour ce qui est de la conversion, eh bien, on devrait avoir notre vie ponctuée de petites conversions. Je m'explique. À la Chaux-de-Fonds, il fait froid. À la Chaux-de-Fonds, on dit toujours qu'il y a 6 mois d'hiver, 6 mois d'impôt. Mais à Neuchâtel, il y a un lac. Le printemps arrive plus vite. Il fait beaucoup plus chaud. Si je veux aller de Chaux-de-Fonds à Neuchâtel, je dois faire une conversion. Ça se passe à Chambrelien. Si je veux aller à Neuchâtel en train, le train, ça c'est Chambrelien. Le train, ici, cette route-là, enfin cette ligne-là, elle vient de la Chaux-de-Fonds. Et il arrive ici à Chambrelien, il doit s'arrêter. Quand j'étais petite, il fallait changer la loco, puis la mettre de l'autre côté. Maintenant, Raymond, tu me corriges si c'est pas juste. Le mécano, il doit sortir, enfin, il doit changer de cabine, aller de l'autre côté et reprendre la voie qui descend là-bas. Parce que si je suis à la Chaux-de-Fonds et que je vais aller à Neuchâtel en train et que à Chambrelien, je passe tout droit, soit il y a des rails et je vais n'importe où, mais pas à Neuchâtel, soit il n'y a plus de rails, je déraille et c'est fini. D'où la nécessité de la conversion. Eh bien, c'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour notre vie de tous les jours avec le Seigneur. On doit enlever les obstacles de notre vie. On doit frayer un chemin. On doit enlever tout ce qui fait obstacle au Seigneur. Pour certains, il faudra même ajouter des pavés. Pour d'autres, il faut enlever des broussailles. Chacun sait de quoi il s'agit dans sa propre vie. Ou des fois, on ne le sait pas, alors il faut demander au Saint-Esprit. Et en général, il répond à ce genre de prière. Il faut juste être d'accord de l'écouter. Par exemple, c'est samedi passé, Ritz a donné un enseignement aux membres du groupe de louanges. Il y avait les membres du conseil qui étaient là, c'était ouvert pour ceux qui voulaient venir. Et il nous a expliqué un principe. C'est l'apôtre Paul qui dit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse, ça veut dire nuit et jour, 24-24. Ça veut dire prier à voix haute, prier à voix basse, et selon les circonstances, prier à l'intérieur. La bouche fermée, mais on continue de prier. Ça peut être en langue, ou ça peut être simplement se répéter des psaumes, ça peut être se chanter des hymnes, mais être toujours en prière. Et ça, ça change des choses. Ça commence à débroussailler le chemin. Et quand on saisit ces choses-là, pour ceux qui étaient là ce fameux samedi matin, quand on a compris ces choses-là, on a tout de suite voulu mettre en pratique. Et on continue. On continue de mettre en pratique. Ça, c'est une conversion. Ça veut dire que jusque-là, je le faisais pas. Et tout à coup, le Seigneur m'a montré quelque chose. Et je me dis, ah ouais, là, il y a une clé. Alors depuis aujourd'hui, je vais prier sans cesse. Je dis pas que j'y arrive 24-24, mais le mécanisme, je l'ai mis en route. Je suis déterminée. Et j'espère bien qu'on va me le rappeler, ou quand je vois que Reed est toujours en train de prier en langue, ben moi ça me rappelle, ah oui, il faut que je me mette à prier. Et à force, pour ceux qui étaient là, on a des regards complices, et puis tu t'entraînes ? Ouais, je m'entraîne. Et après, il y aura d'autres conversions, il y aura d'autres choses qui vont se passer, et à chaque fois, on change un petit peu plus notre manière de faire, et ça arrange notre chemin, ça laisse beaucoup plus de place au Seigneur pour qu'il puisse venir en nous, être formé en nous. Ça, c'est un truc. C'est à chacun de trouver où est-ce qu'il en est et de quel truc il a besoin. C'est celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Rendre droit. Le premier sens du terme « droit », il est plutôt géométrique. Droit, c'est-à-dire le contraire de sinueux. Une vie spirituelle sinueuse, c'est quand on perd du temps. Moi, je me lamente souvent en me disant que j'ai perdu presque toute ma vie, tellement je suis lente à comprendre. Tellement quand je comprends, je suis lente à mettre en pratique. Et ça me désespère. Et là, il y a des choses, je veux que ça change. Et ce qu'on vient de vivre ce matin, je crois qu'il y a un déblocage qui a commencé en moi, cette fois, j'ai la niaque. Cette fois, j'y vais. Cette fois, je mets en pratique. Il y a des choses auxquelles on s'accroche. Il y a des compromis qu'on fait. Il y a des fausses priorités. Je sais tellement que je dois aller prier, que je dois aller dans le lieu secret, mais j'ai toutes ces devoirs à faire encore. Si je fais pas mes devoirs, ça va être compliqué. Bon, allez, je vais faire mes devoirs, je prie après. Mais après, c'est l'heure de manger. Je peux quand même pas sauter le repas. Enfin bref, vous savez comment ça se passe. À Madagascar, c'est un grand pays qui est plus grand que la France, mais qui est un peu tout en longueur. Il y a une route qui traverse le pays du nord au sud, puis quelques-unes d'est en ouest. Et sur la route qui traverse du nord au sud, on peut croiser presque toujours. C'est à peu près tout. Mais des fois, on peut pas croiser. Et le problème, c'est que cette route, elle suit le relief. Et souvent, c'est des rizières, donc c'est marécageux, et en plus de ça, c'est vallonné. Donc la route fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et c'est des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Moyenne nationale de 50 kilomètres à l'heure, donc quand on fait 600 kilomètres pour aller par exemple dans le nord-ouest, il faut compter en tout cas 14 heures. Et ça tourne. Alors quand on part comme ça, on connaît la distance, mais on sait que ça va prendre beaucoup plus long que ce qu'on a l'habitude. En plus de ça, on aura l'estomac qui va s'accrocher derrière les oreilles. Et on serre les dents, et puis on attend que ça passe. Et ça va hyper lentement. Mais quand tout à coup, il y a un bout droit, l'estomac redescend à sa place originale, le chauffeur de taxi brousse met les gaz, et on fonce. On fonce droit au but. Et là, on gagne du temps. Et là, ça va vite. Et là, qu'est-ce que ça fait du bien ? Tout devient facile. C'est la même chose pour nos vies. Chaque fois qu'on fait un détour, parce qu'on sait très bien ce que Dieu dit dans sa parole, mais on veut aller à gauche ou à droite, ben peut-être qu'on arrivera au but, mais après tout le monde, parce qu'on aura perdu du temps. Il y a une autre signification pour ce mot « droit ». C'est un sens juridique. Considéré comme juste, conforme à la volonté de Dieu, agréé par Dieu. Alors qu'est-ce que c'est que d'avoir un chemin en moi qui donne accès au Seigneur à mon cœur, à ma vie, à mes pensées et qui soit juste? Du coup, qu'est-ce que ça veut dire pratiquer la justice? On est dans le même domaine. On va aller lire dans la suite de Luc 3, à partir du verset 10. Les foules l'interrogeaient. « Que devons-nous donc faire ? » Il leur répondait. que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. » Des collecteurs des taxes aussi vinrent pour recevoir le baptême et lui demandèrent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur dit « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi l'interrogeaient « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur dit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort et contentez-vous de votre solde. » Dans tous ces exemples de Jean-Baptiste, dans tout ce qu'il donne, il y a la notion de partager. Il y a la notion de ne pas exiger démesurément. Il y a la notion de ne pas extorquer, de se contenter de ce qu'on a. Et si on fait bien attention aux exemples qu'il donne, il s'agit toujours de personnes qui ont un certain ascendant sur les autres. Il s'adresse à des personnes qui ont la possibilité de prendre autorité ou de prendre pouvoir sur d'autres. Et il est en train de leur dire « c'est pas comme ça que ça doit se passer ». Il faut faire attention à l'influence qu'on a sur les gens. Quand Jésus a commencé son ministère dans la synagogue, on lui a tendu le rouleau de la parole. Il l'a ouvert à Ésaïe 61, il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint » pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs, etc. Il n'a pas dit pour annoncer une bonne nouvelle aux riches, aux nantis, aux rois, aux sages, Il a dit pour annoncer une bonne nouvelle aux plus démunis, aux plus vulnérables, à ceux qui sont en difficulté. Pratiquer la justice, c'est ça. C'est que dans notre cœur, il doit y avoir une place. Une place pour l'autre, une place pour les autres, une place pour les personnes en fragilité, pour les personnes vulnérables. Ça veut dire qu'on doit prendre soin du pauvre, de la veuve et de l'orphelin. Du début à la fin de la parole, Dieu nous en parle. Et souvent, on pense surtout à nos propres besoins. On veut répondre à nos propres besoins. Allez voir la littérature dans les bureaux de poste. Maintenant qu'ils vendent des livres, regardez les thèmes. C'est tout des trucs pour le bien-être. Mais c'est pas pour le bien-être d'autrui. C'est pour son propre bien-être. Les petites plantes, les petites fleurs, le spa, le machin, etc. C'est pas que c'est mauvais de prendre soin de soi. C'est bien. On doit honorer le corps que le Seigneur nous a donné. Mais c'est la mentalité égoïste. Et c'est la mentalité de notre société dans laquelle on nage jusqu'au cou. Maintenant, même nous, les chrétiens, on est influencés, on est impactés par la mentalité de la société où c'est le bonheur pour soi tout de suite. Mais la parole ne dit pas ça. Et une des choses qu'on peut faire, parce que ça concerne pas seulement nos biens financiers, bien sûr, il faut donner, mais c'est aussi aider selon les compétences qu'on a. Ça peut être accompagner quelqu'un dans une procédure juridique, parce que la personne n'y comprend rien à la loi, mais nous, on a des compétences. Ça peut être aider quelqu'un à faire tout ce qui est administratif, ses paiements, parce qu'il sait plus, l'aider à faire un budget, parce qu'il sait plus. Ça peut être accompagner quelqu'un dans une démarche de pardon ou je ne sais quoi. Ça peut être accompagner quelqu'un pour aller faire les courses parce qu'il sait plus comment ce qu'il faut faire pour se nourrir sainement. Ça peut être des choses, en fait, qui sont à la portée de tout le monde. On a tous des compétences. Pour un jeune, ça va être de se lever dans le bus pour donner sa place à quelqu'un de plus âgé. C'est tout simple. Mais considérer les gens dans les moindres détails en se disant « Mais comment est-ce que je peux aider les plus vulnérables ?» Ça, c'est pratiquer la justice. C'est rendre mes sentiers droits, juste conformes à la volonté de Dieu. Luc 3, verset 5 « Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins raboteux seront nivelés. » Et dans Ésaïe 44, « Que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons, ici, le chemin, il est déjà nettoyé, poussé. On a déjà remis les pavés dans les trous. On a déjà enlevé toute la végétation qui avait empiété sur le chemin. On a enlevé tous les virages. Donc, on est sur un chemin droit. Mais en plus, le chemin, il faisait des montagnes russes. Des montagnes, des vallées, des montagnes, des vallées, des montagnes, des vallées. Il faut mettre ce chemin à plat. Pourquoi ? Parce qu'il est question de constance. Qui est-ce qui n'a jamais vécu des hauts et des bas dans sa vie spirituelle ? Ça me rassure, je suis pas la seule. C'est bien connu, quand on est proche de Dieu, quand on a une vie intime de prière et de méditation, de compréhension de sa parole, quand on est au taquet, on a hâte de son retour. Il y a tellement de choses, tout pâlit devant lui. Il y a tellement de choses qui étaient importantes pour nous qui n'ont même plus d'importance. On devient amoureux de Jésus. Et pourvu qu'il revienne, maintenant Seigneur, ça suffit quoi, reviens. Et les moments où on est plutôt en bas, ben on commence à avoir la trouille. Puis on commence à batailler avec nos propres forces, puis on se pose plein de questions, puis on perd du temps, etc. Et là, on n'est pas prêt. On se dit, oh, Seigneur, si tu reviens maintenant, je suis pas prête. Le but, c'est que le terrain qui donne accès à Jésus dans notre cœur, c'est qu'il soit à plat. C'est que tout ce qui est trop élevé pour moi, tout ce qui est des montagnes, des difficultés, ça puisse redescendre, et tout ce qui est manquement, ça puisse remonter. Et le but, c'est que ce soit complètement aplani. Parce que si mon chemin, il est complètement à plat, eh ben je vois Jésus face à face. Alors abaisser ce qui est trop haut pour moi, c'est enlever déjà les difficultés. Si les objectifs que je me fixe sont trop hauts, je vais jamais pouvoir les atteindre. Donc j'aurai toujours envie de, j'ai envie de plus d'intimité avec le Seigneur, j'ai envie de communion, j'ai envie de comprendre sa parole. Mais il faudrait tellement passer à la pratique, à la réalité. Alors peut-être qu'il faut revoir un peu à la baisse certains objectifs. Une conversion après l'autre, pas tout en même temps. Mais cette conversion que je fais là, je la tiens. Et quand elle sera acquise, je passe à la suivante. Peut-être que j'aurai besoin d'aide. Peut-être que j'aurai besoin d'être accompagnée. Peut-être que je vais devoir me nourrir d'autre chose que ce que je faisais jusqu'à maintenant. Tout ce qui était trop difficile, il faut que ça baisse. Par contre, il y a des manquements. Peut-être que c'est un manque de prière. Peut-être que c'est dans la lecture de la parole. Peut-être que je la lis tous les jours, mais elle ne me nourrit pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un truc que je n'ai pas saisi. Ou parce que dans la méditation, il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire. Ben là, ça va peut-être devenir un objectif. Ok, c'est là-dessus que je travaille. Et quand ça, j'aurai réussi, que ce sera acquis, je passe à la conversion suivante. Et là aussi, peut-être que j'aurai besoin d'aide. Chacun, on sait où on en est, on sait ce qui nous manque et on sait ce qui est difficile. Et il y a des choses à faire. Préparer le chemin du Seigneur pour nous aujourd'hui, ça se passe vraiment dans notre cœur. Mais quand on arrive à faire cette préparation, ça se voit. Ça se voit parce que notre vie, elle change. Parce qu'on produit du fruit digne du changement, digne de la repentance, digne de la conversion, digne du changement de route, digne du changement de mentalité. Et en plus de ça, on considère les autres. Ils font pleinement partie de notre processus. Et même soi-même, on est moins seul, tout simplement. Alors, un changement radical qui doit se voir, exercer la justice et atteindre la constance. Alors la gloire du Seigneur se dévoilera et tous la verront ensemble. C'est la bouche du Seigneur qui parle. Que le Seigneur nous vienne en aide pour préparer dans nos cœurs ce chemin. Qui lui donne accès pour qu'il soit formé en nous jusqu'à son retour. Amen.